Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, quel est votre choix de l'actu du jour?
Je vous raconterai comment une star de la chanson au Nigeria, victime d'un chantage à la sextape, a su retourner la situation à son avantage.
Mohamed, votre story du jour.
Scandale au cœur du service gynécologie de l'hôpital Tenon, je vous raconte tout ce soir.
Mathieu dans le 5 sur 5.
Le gouvernement demande aux distributeurs de faire un effort sur le prix des carburants. Le président de Système U répond ce soir dans C'est à vous.
Patrick.
Une icône africaine disparue il y a 34 ans, Thomas Sankara, le procès de son assassinat vient enfin de s'ouvrir.
Et Pierre dans votre œil ce soir.
Et l'œuvre de l'artiste Banksy, qui avait été autodétruite dès sa vente aux enchères il y a 3 ans, elle revient aux enchères demain, elle va exploser les prix.
Autant de sujets que l'on sommet ce soir à nos invités avant de recevoir Serge Lama et Cécile de France autour d'un humble chevalier préparé en ce moment même par Emmanuel Renaud, chef triplement étoilé du restaurant Flocon de Sel à Vegem. Bonsoir cher Emmanuel.
Bonsoir.
Bienvenue dans la cuisine de C'est à vous. Je ne me suis pas trompée jusque-là.
Tout est bien, tout est bien. Merci de me recevoir. Plaisir, honneur d'être avec vous ce soir pour vous parler du festival de cuisine de montagne à Tokissim à Megève et de l'exposition de photos de Patrick Rougereau où on va parler des produits de montagne bien sûr.
Et l'omble ?
Et je vais vous préparer un omble chevalier au sapin.
Au sapin, voilà pour la montagne. Merci Emmanuel, à tout à l'heure. C'est un homme qui, par ses paroles et ses actes, incarne ce que l'humanité a de meilleur. Prix Nobel de la paix 2018.
C'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. À l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle. Je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie.
Surnommé l'homme qui répare les femmes, le gynécologue Denis Mukwege, salué pour son engagement sans faille contre les mutilations génitales dont sont victimes les femmes et les enfants de son pays, la République démocratique du Congo. Lui qui, depuis 1999, a soigné plus de 60 000 survivantes de violences sexuelles. La plus jeune avait 6 mois à peine, la plus âgée 80 ans.
Les rebelles sont revenus. J'étais avec mes enfants et ils ont commencé à me violer.
Beaucoup ont eu des enfants issus des viols. On est tellement nombreuses. Ils ont détruit des milliers de femmes.
De son hôpital, le docteur Mukwege est aux premières loges.
Bonjour.
En 20 ans, plus de 50 000 femmes ont été soignées à l'hôpital de Panzi.
Il a changé ma vie. Il m'a aidé à avoir une vie nouvelle et à changer tout ce que j'avais de mauvais en moi.
Un chirurgien qui continue aujourd'hui d'opérer dans son hôpital, mais désormais sur surveillance, de plus en plus menacé dans son pays. Il signe aux éditions Gallimard un livre récit de ses combats, de sa vocation et de ses espoirs. Lui qui rêve d'une société où les femmes disposent dignement des mêmes droits que les hommes. Il est ce soir notre invité exceptionnel. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Denis Mukwege. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de ce livre essentiel qui délivre une réalité bien souvent insoutenable, tant les violences subies par les femmes de votre pays sont monstrueuses, mais dont le titre, La force des femmes, évoque leur courage, leur volonté de se relever et de vivre. Un livre que vous dédiez à votre mère, à vos filles, à vos sœurs et à toutes les victimes de violences sexuelles en formulant un rêve, celui d'une société meilleure, plus pacifique, où les femmes aient enfin les mêmes droits que les hommes. C'est un rêve possible, docteur ?
C'est possible si les hommes et les femmes se mettent ensemble
pour le réaliser. Je crois aujourd'hui, la lutte contre les violences sexuelles, la lutte pour l'égalité femmes-hommes, malheureusement, c'est considéré encore comme la lutte des femmes. Je pense que les hommes doivent s'engager pour arriver à ces rêves.
À condition que plus aucun de nous ne soit indifférent au sort de ces millions de femmes. Et pourtant, cette relative indifférence, vous y êtes encore et toujours confrontés. Malgré vos 20 ans de combat et un prix Nobel, vous en êtes encore à devoir justifier vos choix et votre engagement.
Malheureusement, je crois que l'éducation que nous recevons dans notre société patriarcale nous amène à ce que parfois nous subissons des attaques où nous sommes regardés comme tout à fait des hommes atypiques dans la société, alors que je crois que nous sommes tous frères, nous avons des sœurs, nous avons des filles, nous avons des mères, et donc nous devrions considérer toutes les femmes comme nous considérons celles qui sont autour de nous.
Il n'est pas courant, effectivement, qu'un homme fasse campagne pour les droits des femmes. Et si vous êtes devenu un militant féministe, c'est un peu par hasard. Ce sont les circonstances qui ont fait de vous ce spécialiste des blessures par viol, et notamment la première patiente que vous avez été amenée à opérer d'urgence dans votre hôpital de Panzi, de Bukavu, alors en construction. Une femme de 35 ans, à peine consciente, elle saigne abondamment, elle souffre de douleurs insoutenables, mais elle n'est pas venue accoucher.
Eh bien, effectivement, mon parcours, je voulais être pédiatre, et donc j'ai fait ma thèse de médecine en pédiatrie, la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Malheureusement, quand j'arrive pour la première fois dans un hôpital rural en République démocratique du Congo, je suis tout simplement touché par le nombre de femmes qui meurent en couche. Et on ne peut pas avoir des bébés à soigner si leur mère décède même avant de les avoir. Et là, je vais changer mon parcours. J'ai décidé de venir à Angers, ici en France, où j'ai passé 5 ans à faire l'obstétrique et la gynécologie. Et là, j'ai pratiqué pendant 10 années dans mon pays, où je constatais qu'il était possible de changer la vie des femmes, surtout en couche, lutter contre
la mortalité
maternelle. Oui, exactement. Mais en 1996, quand la guerre commence chez nous, la guerre commence dans mon hôpital, où mes malades vont être tués dans leur lit, le personnel soignant va être également tué, et je vais me réfugier à Bukavu. 2 ans après, je décide de recommencer cette lutte contre la mortalité maternelle. J'ai construit l'hôpital de Panzi. Et malheureusement, la première victime que je soigne, elle n'était pas venue pour accoucher. Elle avait subi un viol avec une extrême violence. J'étais déjà dans la région pendant 10 années, mais je n'avais jamais vu quelque chose de pareil.
Vous aviez effectivement déjà soigné des plaies atroces pendant le génocide au Rwanda notamment, mais la nature de ces violences-là était sans précédent. La nature et la fréquence de ces crimes. Vous prenez l'habitude à chaque fois de demander à ces femmes de vous faire le récit de ce qu'elles subissent. Des violeurs qui insèrent leur pistolet dans le vagin de leur victime avant d'appuyer sur la détente, d'autres des bouts de bois, des objets tranchants ou du plastique brûlant. Souvent, écrivez-vous, elles étaient violées devant leur mari, parfois leurs enfants, et ceux-ci étaient quelquefois sous peine de mort, obligés de participer au viol. Voilà les récits qui vous sont faits.
Absolument. Quand je soigne la première victime, j'avais tout simplement le sentiment que ça doit être quelqu'un de malade, c'est un fou qui peut commettre des actes comme ça. Violer, c'est déjà très très grave, mais avoir l'idée d'y introduire du bois ou une baïonnette, je crois que ça dépasse tout entendement humain. Et malheureusement, 3 mois après, je me rappelle très bien, c'était le 1er septembre 1999, et 3 mois après, à la fin de l'année, je constate que j'ai déjà soigné 45 femmes et qui me décrivent presque la même chose. Et là, effectivement, je commence à m'interroger, je suis devant quoi? Et je conclue tout simplement que c'est une nouvelle pathologie qui est liée à la guerre. Et progressivement, je me rendrai compte que c'est une stratégie de guerre.
Arme de destruction massive.
Nombre de ces femmes qui venaient vers vous avaient la même expression désespérée, vous disant: ils m'ont tué, car ces viols sont bien sûr une terrible blessure physique, mais aussi une blessure sociale, car très souvent, leur famille les met à l'écart.
Ces viols, en fait, lorsque les femmes utilisent cette expression, et j'étais très, très étonné de constater que cette expression, elle est utilisée partout au monde. Les femmes que j'ai rencontrées, aussi bien en Colombie qu'en Bosnie ou en Asie, elles utilisent cette expression. Quand j'étais violée, je n'ai plus de vie. Quand on m'a violée, on m'a tuée, etc. Et je crois que c'est très profond. Cet universalisme, en fait, de conséquences de viol sur les femmes m'a beaucoup touché. Ça m'a amené à aller en profondeur par rapport à cette question. Et effectivement, c'est pour ça qu'on peut considérer que ce ne sont pas des viols, ce n'est pas un acte sexuel, c'est tout simplement un acte délibéré pour détruire la victime, mais également détruire la société, toute la communauté, puisque lorsque la femme est violée en présence de ses enfants, en présence du mari, souvent le mari est le premier à partir, puisque cette humiliation, les hommes, ils vont tout de suite aller chercher l'anonymat, là où ils peuvent vivre tout à fait anonyme. Mais les femmes, lorsqu'elles sont seules, elles vont partir à leur tour. Et je crois que ça permet tout simplement de détruire les tissus sociaux.
C'est pour ça que vous parlez de survivante et non pas de patiente.
En fait, c'est une évolution. Je crois qu'à l'hôpital, lorsque les victimes arrivent, nous les appelons victimes à ces moments-là, puisque ce sont des femmes qui viennent, qui pleurent, qui ne peuvent pas vous regarder. Ce sont des femmes qui n'arrivent pas à dormir. Et donc, elles vivent dans cet état de victime où elles sentent que la société, leur mari souvent les rejette, la communauté les rejette également. Et lorsqu'elles commencent leurs soins, nous les appelons des patientes, et souvent, les soins que nous donnons sont des soins holistiques. D'abord, elles viennent pour des problèmes médicaux ou chirurgicaux. Lorsqu'elles guérissent, on s'était rendu compte que le grand besoin, c'était aussi la prise en charge psychologique. Parce que lorsqu'elles sont violées, elles sont violées avec une telle humiliation finalement, ces femmes, elles arrivent non seulement avec des plaies, mais avec un traumatisme très profond. Aujourd'hui, nous travaillons avec des psychologues, mais aussi nous les aidons à se réinsérer dans la communauté. Et la seule façon de les faire, c'est les rendre autonomes sur le plan économique. Et ce que nous avons observé, lorsqu'elles sont physiquement guéries, psychologiquement, elles se portent mieux, elles sont autonomes. C'est à ces moments-là que le besoin de la justice arrive et ces femmes nous demandent de les accompagner devant les juges, les cours et tribunaux. Et c'est à ces moments-là qu'on les appelle des survivantes.
Si vous voulez qu'elles aient la force un jour d'affronter leur bourreau devant un tribunal.
Eh bien, effectivement, puisque je crois que pour les femmes, ce que nous avons observé, ce besoin de vouloir aller en justice, ce n'est pas pour se venger. C'est pour que la société, d'abord, puisqu'elles sont culpabilisées, être rejetées par tout le monde alors que ce n'est pas de leur faute. Elles ont besoin que quelqu'un qui a une autorité puisse dire « Madame, ce n'est pas de votre faute. » Et nous devons apprendre à le faire. Soutenir ces femmes pour pouvoir dire « Être violée pour une femme, ce n'est pas de sa faute. » Nous sommes encore dans la société où le type d'habillement, le lieu fréquenté, on culpabilise la femme. Et souvent, nous avons vu dans notre expérience, les femmes veulent qu'on puisse leur dire « ce n'était pas de votre faute ». Et je vis des femmes qui prennent tout le temps pour aller devant les cours et tribunaux, juste pour avoir un papier et qu'elles montrent avec fierté « voilà, c'est arrivé, mais ce n'était pas de ma faute ». Et souvent, il n'y a aucune réparation qui est donnée. Je crois que normalement, la société doit réparer lorsqu'elle n'a pas pu protéger les femmes.
Votre combat, il est aussi contre l'impunité des bourreaux, longue impunité, puisque pendant longtemps, il n'y a pas eu de poursuites, il n'y a pas eu de procès. Récemment, il y a quelques mois encore, 19 policiers et militaires ont été condamnés. Votre fondation était partie civile. Ça avance sur ce point de vue-là, de ce point de vue-là.
Je crois qu'il y a des victoires d'étape que nous avons. Et la grande victoire, je dois dire, c'est quand la Fondation Panzi Trial, nous étions en procès contre un chef rebelle, mais qui était également un député provincial de la province du Sud Kivu. Et sa milice violait les enfants de moins de 5 ans. Et lorsque des viols se commettent sur des bébés, les lésions sont insupportables. Même pour les chirurgiens, c'était très, très difficile de supporter ces lésions. Et on s'est battu pendant 3 ans pour obtenir à ce que ces députés soient arrêtés. C'est ce qu'on a appelé le procès de Kavumu. Et je dois dire que lorsque la justice intervient, lorsque la justice comprend que les femmes ont des droits et que ces droits doivent être respectés, ça peut changer les choses. Le jour où ce monsieur a été arrêté et condamné, les viols d'enfants dans ces villages se sont arrêtés. J'avais déjà soigné plus de 50 petites filles de moins de 5 ans. Donc ça, c'est une victoire d'étape. Mais en fait, ces crimes, les crimes à caractère sexuel, sont des crimes internationaux. Et le droit international demande à ce que les victimes aient droit à la justice, qu'elles aient droit à la vérité, qu'elles aient droit également à des réparations et à la non-répétition. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous nous battons pour que la justice transitionnelle puisse être implémentée, pour que ces milliers de femmes que nous soignons et qui ont envie d'aller en justice, qu'un jour il y ait quelqu'un qui peut leur dire « Mesdames, vous n'aviez pas tort et nous voulons assurer que ça ne va pas se répéter. »
En attendant, docteur, vous êtes toujours menacé, vous vivez dans une maison au milieu de l'hôpital qui lui-même est protégé par des soldats des Nations Unies. Votre directeur adjoint a été assassiné il y a quelques années.
Effectivement, il y a quelques années, mon ami Jeff avait été assassiné chez moi à la maison. Et effectivement, ça, c'était un drame pour moi, pour mes enfants, puisqu'il a été assassiné en présence de mes deux filles. Et ça, c'était la ligne rouge. Je ne pouvais plus supporter. J'avais considéré qu'il faut absolument que je quitte le pays. J'avais quitté le pays pendant 3 ans, trois mois plutôt. Ouais. Mais quand j'étais à l'extérieur, les femmes m'ont impressionné. C'est-à-dire d'abord, ce sont des femmes qui viennent vraiment des villages et n'ont pas une grande éducation. Celles qui sont éduquées, c'est des enseignantes dans des écoles primaires. Elles ont pris l'initiative d'écrire au président de la République. N'ayant pas eu une réponse, elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies. Et n'ayant pas eu une réponse, elles ont pris l'action de dire « nous voulons que notre médecin revienne ». Ces femmes ont décidé que chaque vendredi, elles viendraient à l'hôpital pour vendre les fruits et les légumes, c'est ce qu'elles produisent, et le produit de ces ventes seront remis à l'hôpital. Elle s'était fixé l'objectif de $50 chaque vendredi jusqu'à ce qu'elle puisse payer mon billet retour à Bukavu avec ma famille. C'était formidable. Mais c'est vrai, au début, je disais, elles sont très gentilles, mais je crois qu'elles se sont fixées un objectif qu'elles ne peuvent pas atteindre. Mais quand elles sont arrivées pour la troisième fois, donc $150, je m'étais dit, les femmes sont fortes. Elles vont y arriver et je ne veux pas faire souffrir des femmes qui ne gagnent pas $1 pour vivre.
Et vous êtes revenu auprès d'elles.
Donc je suis revenu auprès d'elles. Et depuis, je suis sous la protection des Nations Unies.
Des Nations Unies.
Forcément, une question qu'on se pose et que vous êtes posée maintes fois quand vous faites face à toutes ces violences que vous décrivez, c'est qu'est-ce qui peut bien mener tous ces hommes à se livrer à de telles violences, des viols, d'une violence extrême. On en a entendu quelques extraits. Vous vous êtes dit pourquoi cette sauvagerie? Et un jour, vous avez eu un bout de réponse parce que vous avez posé cette question à un jeune homme de 20 ans qui venait, qui était coupable de tels actes.
Effectivement, alors que j'étais à l'hôpital, il y a un jeune homme qui voulait me voir. Il a tellement insisté, je ne voulais pas les rencontrer puisque j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Mais en insistant, je m'étais dit, il faut quand même que je l'écoute. Et là, il va me raconter une histoire qui non seulement était, je dois dire, dégoûtante, puisque ce qu'il m'a dit, ce jeune homme, c'est inhumain.
Il s'en était pris à sa propre mère.
Exactement. Il m'a raconté comment, lorsqu'il a été recruté dans la milice où il était, donc comme initiation, on a demandé à ce jeune homme d'amputer sa mère, et il l'a fait. Et désormais, il m'a dit, bon, ben moi, quand j'égorge ou je viole une femme, c'est comme si j'égorgeais une chèvre ou une poule. Et là, je crois que c'était trop, je ne pouvais plus continuer. Mais là, je dois dire que les adultes qui se permettent de prendre des jeunes garçons qui ont 11, 12 ans, les mettre dans une armée, et puisque tout simplement, ces enfants, lorsqu'on leur fait un lavage des cerveaux, ils sont capables de faire des atrocités qu'un être humain ne peut pas faire sur un autre humain. Je pense que ça, c'est une lâcheté de la part de ces adultes qui amènent des enfants à faire des actes comme ça.
Un lavage de cerveau par ces adultes qui ont une vision de la société, alors de la femme qu'il faut revoir.
Absolument.
Tout est à revoir.
Je pense que tout est à revoir, puisque ces hommes qui font ces lavages des cerveaux et envoient ces enfants en leur disant, avec l'arme, vous aurez l'argent, vous aurez les femmes, vous aurez tout ce que vous voulez. Un enfant de 11-12 ans, quand il essaie avec son Kalachnikov en main, il a l'impression que tout le monde se met à genoux et il croit dans ses discours, qui est un discours tout simplement destructeur.
Mais c'est une société aussi, et ça vaut aussi au-delà de la République démocratique du Congo, des sociétés où l'homme, le garçon, le fils est mis sur un piédestal, où des femmes enceintes dans votre cabinet pleurent parce qu'elles attendent une fille. C'est tout ça aussi qu'il faut changer, toute cette éducation qui est à revoir.
Absolument, nous sommes dans une société où l'inégalité femme-homme est à l'origine de tous ces abus. Et effectivement, cette construction qui est faite, une construction d'une masculinité toxique, nous sommes tous, nous avons une responsabilité. On peut très bien voir que dans beaucoup de sociétés, notre société patriarcale, quand vous allez par exemple en Inde ou en Chine, on commet des fœtocides tout simplement puisqu'on ne veut pas avoir de filles et tous les fœtus féminins sont éliminés. Et dans d'autres sociétés, c'est puisque c'est les garçons qui portera le nom de son père. Et donc, lorsqu'il y a la naissance d'un garçon, il est célébré et ce garçon va être mis au piédestal dans la société. Malheureusement, on détruit en fait cette bonté qui est naturelle chez ce garçon qui, après, va se comporter comme le jeune homme qui était venu dans mon bureau.
Dans l'actualité, il y a une autre icône africaine, Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, dont les assassins présumés vont enfin être jugés 34 ans après. Sankara, qui est la figure politique la plus populaire, Patrick, au sein de la jeunesse africaine.
Et qui s'est lui aussi battu pour les femmes, on va y venir. Mais oui, Sankara jouit d'une aura extraordinaire qu'on ne peut comparer ailleurs dans le monde qu'à celle de Che Guevara, d'autant plus extraordinaire pour un jeune et modeste capitaine parvenu au pouvoir par un coup d'État qu'il n'a gardé que 4 ans dans un petit pays sans ressources et parmi les plus pauvres du monde. Mais Sankara, officier non conformiste, intellectuel brillant, charismatique, combattant du tiers-monde et des peuples opprimés, champion de la lutte anticorruption, qui a renommé son pays, la Haute-Volta, patrie des hommes intègres, le Burkina Faso, a rayonné bien au-delà de ses frontières. Voici quelques rares images des acclamations qui ont suivi son discours, le poing levé à la sortie de la tribune à l'Assemblée générale de l'ONU en 84. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina, je parle au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Grand discours universaliste. 2 ans plus tard, à Ouagadougou, il réserve à François Mitterrand l'un des pires rudoiements jamais subis par un président français à l'étranger. C'était à l'ouverture du dîner officiel à l'heure des toasts, au moment habituel des serments d'amitié partagée. Au lieu de ça, Sankara inflige à Mitterrand une leçon de droit de l'homme pour avoir laissé venir en France le président d'Afrique du Sud, alors sous régime d'apartheid.
C'est dans ce contexte, monsieur François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours.
Vous avez vu la tête de François Mitterrand, un pas vide, visage de sphinx, avant de répliquer pendant une demi-heure sans note. J'étais présent et j'ai interviewé deux fois Sankara à cette occasion et ça m'a laissé un souvenir très impressionnant. Au-delà de ces coups d'éclat, ce qui reste de Sankara, ce sont ces idées visionnaires qui étaient alors en Afrique des combats révolutionnaires, notamment son féminisme. À l'ONU encore en 84, je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système imposé par les mâles. Dès son arrivée au pouvoir, il nomme des femmes au poste clé de son gouvernement et lance le combat pour leur émancipation.
L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes.
Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
Sankara institue une fois par mois une journée obligatoire des hommes au marché pour libérer les femmes des tâches ménagères, mais aussi pour que leurs maris connaissent le prix et la valeur des aliments. Plus fondamental, il met fin au mariage forcé, à la dot et au lévirat, quand la veuve d'un défunt doit épouser son frère, et il lutte contre les mutilations sexuelles, les excisions qu'il dénonçait comme une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité. Et en Afrique, vous le savez, docteur, dans les années 80, c'était pionnier et même révolutionnaire.
Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde manque de dirigeants de type Sankara, puisque dans mon livre, je reviens sur le fait que pour changer notre société, nous avons besoin des leaders politiques, religieux, qui peuvent prendre parole et qui peuvent montrer la direction. Je pense que l'Afrique avait perdu un de ses grands-fils, Thomas Sankara, puisque déjà en 80, les idées qu'il avait, c'était des idées révolutionnaires par rapport à la vie des femmes en Afrique. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement content cette semaine, le fait que le procès des assassins de Thomas Sankara a commencé cette semaine, je crois que ça donne espoir et un grand message, c'est un signal fort envers tous ces dirigeants qui continuent non seulement à martyriser les femmes, mais également à commettre des crimes ou laisser commettre des crimes sur les femmes, leur jugement viendra. Ce sont des crimes imprescriptibles et donc un jour ils seront jugés. Je pense que c'est préférable prévenir que guérir et je crois qu'il faut arrêter le comportement aujourd'hui qu'on voit dans tous les conflits envers les femmes.
C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, c'est un éminent spécialiste de l'endométriose et des cancers de l'ovaire qui est visé par une enquête préliminaire pour viol.
Depuis le 28 septembre dernier, Émile Darraï, le célèbre chef du service gynécologie de l'hôpital Tenon à Paris, est au cœur d'un scandale. Il est visé par une enquête préliminaire pour viol et une autre pour viol en réunion, confié à la police judiciaire parisienne. Plusieurs femmes ont porté plainte. Les plaignantes accusent l'éminent spécialiste d'actes brutaux, de propos déplacés, d'examens humiliants et de soupçons d'abus sexuels. Elles expliquent que sous couvert de pratiques médicales, le médecin de 65 ans a imposé des pénétrations violentes.
Une cliente qui, après un parcours médical long et pénible, a fini au bout de plusieurs années par voir ce professeur et qui finalement a subi un examen absolument cataclysmique. Ma cliente finira par sortir, subira des saignements pendant 3 jours alors qu'elle est atteinte d'endométriose, donc saignement impossible. Il y a ce matin une des patientes qui m'a interpellé à mon cabinet pour me dire qu'elle avait été victime exactement des mêmes actes il y a 25 ans.
Certaines victimes évoquent des consultations violentes avec des touchés vaginaux et anaux sans consentement. Les témoignages sont nombreux. Elles veulent lever le voile sur les zones grises des violences médicales.
Depuis que ce dossier est sorti, effectivement, on reçoit, moi et j'imagine d'autres confrères, des dizaines d'appels de femmes qui témoignent exactement du même mode opératoire. Donc je ne crois pas que ce soit anecdotique. Je crois au contraire que c'est révélateur d'une pratique qui était celle de ce professeur émérite. L'introduction par surprise et sans le consentement, eh bien, ça constitue, dans le droit pénal français, un viol.
Selon le collectif Stop aux violences gynécologiques, ce dernier sévit depuis des années. L'association a recueilli plus d'une trentaine de témoignages. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été questionné sur le sujet ce matin.
Parler de cette affaire en particulier, en revanche, il y a des violences qui peuvent exister en médecine, en gynécologie comme dans d'autres types de soins, peut-être un peu plus en gynécologie. D'abord, il y a les violences délictuelles. agression sexuelle, etc. Enfin, là, c'est une condamnation évidemment totale et c'est une affaire de justice. Je ne veux pas qu'on identifie des violences qui seraient gynécologiques ou le fait de gynécologue en particulier.
Selon nos informations, le professeur a été entendu par la commission d'enquête de l'assistance publique hôpitaux de Paris ce matin. Il a d'ores et déjà été mis en retrait de ses fonctions. Nous avons joint l'avocat d'Émile Darraille, maître Alain Jakubowicz. Il rappelle que le gynécologue examine plus de 2500 femmes par an depuis 35 ans et que son client conteste avec véhémence les faits qui lui sont reprochés et que certaines patientes lui ont témoigné du soutien. Il déplore également que sous le couvert du droit à l'information soit portée atteinte à la présomption d'innocence, à la dignité et à l'honorabilité d'un médecin. Le résultat de l'enquête de l'administration est attendu dans les prochains jours. Denis Mukwege, en tant que gynécologue, est-ce que vous entendez la douleur de ces femmes qui parlent de violences systémiques et qui réclament le consentement de la pédagogie dans les examens médicaux ?
Absolument, je crois qu'il faut absolument que les gynécologues obstétriciens soient prévenus que la femme doit, il doit avoir un consentement. Les femmes qui arrivent à Panzi, on les fait signer un consentement pour tous les actes qui seront posés, puisque parfois cette ascendance du médecin devant sa patiente fait que la patiente ne comprend même pas ce qu'elle est en train de subir. Et c'est très, très important de pouvoir expliquer ce qui doit se faire pour que la malade puisse dire oui ou non. Et c'est son droit parfaitement d'accepter ou de refuser un examen ou un acte médical. Je pense qu'il y a une deuxième chose ici que j'ai retenue dans votre présentation. C'est le fait que tous ces actes se passent en silence. Je crois que dans notre société, le silence, c'est l'arme absolue de tout ce qui est abusé. Puisque lorsque les personnes savent qu'ils vont commettre des abus sur les femmes, mais que la société les exige de garder le silence, finalement, les femmes peuvent être abusées dans les milieux familiales, professionnels, pendant des années. Elles vont continuer à garder silence alors que l'arme absolue, c'est briser le silence. Et à partir du moment où, que ce soit sur le plan professionnel ou familial, les hommes savent que les femmes n'accepteront pas et vont briser le silence. Je crois que ça peut améliorer la qualité de vie des femmes par rapport aux abus qu'elles subissent dans tous les milieux.
Briser le silence, prendre la parole, c'est ce qu'a osé faire une star de la pop africaine, Émilie.
Oui, elle est star dans le Nigeria, son pays. Tiwa Savage a déjà collaboré avec George Michael, Mary J. Blige, Sting, David Guetta. Bref, c'est une star également internationale. La voici d'ailleurs en concert à Chicago. Bref, Tiwa Savage est très populaire, popularité qui lui a valu d'être la cible d'un chantage. C'est ce qu'elle a révélé à la radio il y a quelques jours.
Ça va.
Sends me a message, he's like, yo, check your phone. And I'm like, oh, okay. So I check it and there's a video. And I'm just like, whoa. I'm not going to call it a sex tape, but it's a tape of me and the person I'm dating right now.
Ay, ay, ay.
So the person's asking for money now.
Of course.
Au Nigeria, comme en France et ailleurs, le chantage à la sextape, à la sextorsion, le revenge porn, plusieurs termes existent pour désigner ce qui est devenu un fléau. Des maîtres chanteurs s'emparent de vos vidéos, de vos photos intimes et menacent de les publier pour vous extorquer de l'argent. Sauf que Tiwa Savage, même si elle s'est effondrée en larmes, c'est ce qu'elle a expliqué quand elle a appris la nouvelle, elle n'a pas tout à fait eu la réaction qu'attendaient ces maîtres chanteurs.
What are we going to do? And my manager's like, well, how much are they asking for? So I woke up and I was like, no, I'm not. Because I pay it now and then 2 months down the line, you're going to come back again and then 2 years. And then who knows, even if I do send you the money, you probably would release it anyway. I'm not going to allow anyone to blackmail me for doing something that is natural. I'm that crazy, I could put it out myself.
Cette vidéo, ce qu'elle explique, c'est une vidéo intime, envoyée par erreur sur Snapchat, très vite effacée mais trop tard, elle était tombée entre de mauvaises mains. Depuis ces révélations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux à la télévision, chacun y va de son commentaire sur ce que Tiwa Savage devrait faire ou pas.
She's saying she's not going to pay the person because the person is blackmailing her for doing something that is purely natural. So my darling, Drop it. You're not going to be the first person. You're not going to be the last person. No,
that's the worst thing to do. Why?
Yeah.
Very simple. Before now, I think she might have gone to the police.
Alors certains la soutiennent, d'autres affirment qu'elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo. Alors faute à la vidéo ou faute au maître chanteur, en ayant le courage de ne pas céder au chantage, de ne pas garder le silence comme vous le disiez, Tiwa Savage répond à cette question, mais surtout, elle est la porte-voix à d'autres victimes, souvent plus jeunes, plus vulnérables, qui rongées par la honte, ont parfois, s'en sont venues parfois à mettre fin à leur jour. Denis Mukwege, la honte doit changer de camp ?
Absolument. Je pense que c'est cet honneur que notre société veut que les femmes puissent se protéger et jouer ces chantages sur l'honneur. Si vous ne faites pas, je vais publier, je vais dire ce qui s'est passé. Et finalement, ça permet tout simplement à ce que les femmes vivent dans l'esclavage. C'est-à-dire que j'ai des secrets sur vous, j'ai eu des rapports sexuels avec vous, si vous les dites, voilà, vous allez être exclus. Et beaucoup de femmes vont malheureusement vivre comme esclaves sexuelles, tout simplement, par crainte d'être sanctionnées, ces crimes d'honneur. Et je pense que ça doit changer. Le jour où notre société, nous tous ensemble, les hommes et les femmes, on amènera à ce que la honte soit sur les épaules plutôt de celui qui a commis les viols que sur les épaules de la victime, eh ben, je crois que la libération commencera par là.
La force des femmes, ça paraît demain chez Gallimard. C'est signé Denis Mukwege, prix Nobel 2018 de la paix. Merci beaucoup d'être venu. Vous restez avec nous. On va continuer à commenter l'actualité sous votre regard, docteur. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Je vous en prie. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir
Mathieu. Au sommaire ce soir.
Le prix des carburants qui bat des records. Le gouvernement demande aux distributeurs de faire un effort. Réponse en direct ce soir dans C'est à vous. Est-ce que McDonald's cache de la publicité chez les influenceurs ? L'association de consommateurs UFC Que Choisir attaque la chaîne de fast-food. Et puis, la reine Elisabeth II, aperçue avec une canne, les Anglais surpris, même si elle a 95 ans. Des images à la fin du 5 sur 5.
On a parlé des prix de l'électricité et du gaz hier. Ce soir, les carburants à la une du 5 sur 5.
Oui, on le voit à l'image. Les prix au plus haut, quel que soit le carburant. D'ailleurs, record historique hier pour le gazole à la pompe. On dépasse les niveaux de 2018, année du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Hier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a demandé un effort aux distributeurs.
Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous assurer que les distributeurs jouent le jeu et qu'aucun d'entre eux ne profite de la situation pour accroître les prix à la pompe de manière excessive. Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en réduisant leurs marges. Et je me réserve bien sûr la possibilité de les réunir en cas de besoin.
Une première réponse ce matin, piqué au vif, Michel-Édouard Leclerc propose presque un compromis au gouvernement.
Il n'y a pas beaucoup sous le pied aujourd'hui pour baisser nos marges, puisqu'on est déjà pratiquement à prix coûtant, 1 à 2 centimes du litre, ça ne se verra même pas à la prochaine augmentation.
Vous gagnez 1 à 2 centimes du litre.
Oui,
c'est
oui.
Ça votre marge.
Oui. Par contre, si, je suis prêt à aider l'État à baisser ses taxes en accompagnant son mouvement. Si l'État baissait ses taxes proportionnellement, on suivrait.
Bonsoir Dominique Schelcher.
Bonsoir.
Président de Système U. Deux questions. Quelle est votre marge, puisque Michel-Édouard Leclerc a répondu. Et que répondez-vous à la ministre Barbara Pompili ? Et est-ce que vous pouvez faire un effort, un geste ?
Ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que notre marge sur le carburant aujourd'hui, c'est 1%. Donc on peut faire un peu de pédagogie et je pense qu'il faut la faire ce soir. Sur 1,54€ de gasoil aujourd'hui, il y a 33% de matières premières, l'essence. Il y a 9% de transport. Il y a 55% de taxes et 1% de marge du distributeur. Donc ça fait 1 à 2 centimes le litre de carburant. Donc notre marge de manœuvre, elle est extrêmement étroite.
Vous dites comme M. Leclerc qu'il faut baisser les taxes ?
Alors par contre, j'ai une vision différente des choses. Je pense qu'aujourd'hui, baisser les taxes sur l'ensemble du carburant, la France n'en a pas les moyens. Je veux dire, et je serais plutôt pour cibler des aides aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc par exemple, le chèque énergie est une bonne idée. Je veux dire, voilà, baisser massivement les taxes pour tout le monde, c'est un coût pour l'État de manière supplémentaire.
Pour la planète. Pour le climat aussi.
Pour le climat, pour tout le monde. Il y a une partie des Français qui sont en grande difficulté et qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, mais il y a aussi une partie des Français qui ont épargné beaucoup d'argent pendant cette crise, plus de 150 milliards d'euros. Voilà, donc baisser pour tout le monde, je pense que c'est compliqué pour notre pays en ce moment. Donc à un moment, il faut être responsable. Je suis plus, en tout cas chez U, on est pour des mesures ciblées.
C'est-à-dire hein.
Ciblées, ben voilà, une aide, par exemple, soit un chèque énergie qui aide les gens qui en ont besoin, soit peut-être un chèque alimentaire qui leur permet de baisser leurs dépenses alimentaires et
ils qu'elles
soient reportées sur autre chose. Voilà, je pense que...
Vous, Dominique Schellcher, vous êtes à la tête d'un magasin qui est en Alsace, c'est frontalier. Vrai. Est-ce que vous observez d'ailleurs des allers-retours côté allemand pour faire le plein?
C'est une très bonne question. En 2018, au moment où ce phénomène des gilets jaunes avait démarré, quand vous l'avez... En fait, on a vu du jour au lendemain les gens partir en Allemagne parce que le carburant devenait plus cher en France et ils partaient l'acheter en Allemagne. Ces derniers temps, les Allemands venaient plutôt en France parce que l'équilibre s'était fait différemment. Là, c'est en train de s'équilibrer, je dirais. Le phénomène est moins marqué qu'en 2018.
Alors, si on quitte la problématique des carburants, Dominique Schellcher, il y a un problème de prix en ce moment, un problème de prix plus général. Regardez.
L'une des manières de conserver du pouvoir d'achat, c'est de choisir des produits premier prix. Mais depuis plusieurs mois, eux aussi augmentent.
J'achète souvent les pâtes. J'ai remarqué qu'il y a quand même quelques centimes qui ont été rajoutés.
C'est pas encore énorme, mais ça va quand même peser sur le budget des ménages les plus modestes.
Ils ont tous augmenté les prix. Ils ont beau faire des promotions, mais ils ont tous augmenté.
Cette hausse des prix se ressent sur le portefeuille des Français, d'autant que ces marques de distributeurs représentent 32% des ventes.
Même si elle peut paraître minime, au final, ça revient à beaucoup.
Alors, ce n'est pas propre à la France, hein, c'est un effet de la reprise, on l'a beaucoup dit. Les prix vont continuer leur envolée?
Je pense que ça va être compliqué dans les mois qui viennent, mais je voudrais donner un chiffre qui était Oui, je pense que ça va être compliqué, mais redonnons les chiffres, soyons précis, c'était dans la presse ces derniers jours. À fin septembre, sur un an, les prix, c'est moins 0,75 sur l'alimentaire en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a fait notre job, les distributeurs en général, pour accompagner les Français dans cette période compliquée pour beaucoup d'entre eux. Par contre, depuis quelques semaines, y a plusieurs phénomènes. Un, par exemple, les fruits et les légumes, ça a été compliqué, la production a été difficile à cause du gel et de plein de phénomènes dans le monde météorologique. Donc, on a moins de production. Donc, qui dit moins de production dit prix qui augmente. Et donc, il y a maintenant tout un enchaînement. Ça a été les pâtes il y a quelques jours. Donc, oui, effectivement. L'huile également. Il y a des produits à matière première agricole de base importante. Ceux-là, ils sont en tension et ça risque de durer quelques temps. Mais n'oublions pas derrière ce sujet-là qu'on a des producteurs agricoles, on a des paysans, on a des agriculteurs. Et à un moment, accepter de payer l'un ou l'autre centime de plus...
Baisser ses prix, ça veut dire moins rémunérer les producteurs.
Et voilà, à l'autre bout de la chaîne, c'est ça. Donc, on essaye de traiter ça avec le plus grand discernement possible. On analyse chaque demande de hausse. Mais à un moment, quand il y a majoritairement comme une pâte du blé dur dedans, vous êtes obligé à un moment de répercuter un prix.
Dominique Schellcher, on a traversé le Rhin il y a un instant avec vous. On va traverser la Manche à présent avec des images du Royaume-Uni. Là-bas, ce sont les pénuries qui sont à la une. Et on voit, alors c'est propre au Brexit là-bas, mais avec la reprise économique, on voit à travers le monde ces embouteillages de cargos, ces containers qui attendent. Une question, là, pour les foyers qui nous regardent. Est-ce qu'il y aura des pénuries à Noël?
Alors, ces containers qu'on voit actuellement, en quelques mois, leur prix a été multiplié par 7. Premier point. Donc, très difficile.
Donc, ça coûte 7 fois plus cher ça coûte de faire 7 transporter fois plus cher. Les marchandises.
Tout à fait. Donc, les marchandises, notamment, qui viennent d'Asie, parce que c'est ça le sujet, qui font Asie-Europe, coûtent plus cher. C'est aussi plus difficile de trouver des containers. Donc, par exemple, tout ce qui va venir d'Asie, il pourra y avoir des problèmes. Je prends l'exemple des jouets de Noël. Nous, par chance, on a anticipé ce sujet-là. On travaille différemment. À date d'aujourd'hui, on est quasiment à 90% de notre stock de jouets de Noël déjà dans nos entrepôts. Parce qu'on a anticipé, parce qu'on travaille davantage aussi avec des fournisseurs français. Voilà. Derrière ces questions-là, il y a aussi des questions de patriotisme économique.
De souveraineté.
De souveraineté. Nationale. Donc, par exemple, nous, on travaille plus avec des fournisseurs français. Par contre, on a eu des soucis avec des ordinateurs qui sont tous produits en Asie. Il n'y a plus de puces électroniques. Donc ça, plus des problèmes de transport, certains petits produits auront des difficultés.
Merci beaucoup, Dominique Schellcher, président de Système U, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. On parle du droit de vote le retour du débat du droit de vote à 16 ans.
Oui, ça vaut le coup d'ouvrir le débat. Ou alors, aucune piste ne doit être négligée. Voilà ce que disent certains membres du gouvernement. Au moins pour des élections locales, voter à 16 ou 17 ans. L'ancien leader syndicaliste lycéen, Louis Boyard, défend cette idée depuis plusieurs années parce que les 16-18 ans peuvent déjà travailler, payer des impôts, aller en prison, conduire avec leurs parents. Mais ce n'est pas tout.
C'est un enjeu pratique et politique. En fait, on voit que plus les jeunes votent tôt, plus ensuite ils vont continuer de voter. Et nous, ce qu'on propose, c'est pas uniquement de donner le droit de vote à 16 ans et c'est open bar. On propose de mettre dès le collège des enseignements d'éducation morale et civique qui se termineraient jusqu'à 16 ans pour que les jeunes soient matures, qu'ils connaissent l'histoire des institutions, l'histoire des idéaux politiques, des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort du lycée, on n'est pas formé à être citoyen. Aujourd'hui, dans l'école citoyenne, on n'explique pas aux jeunes comment fonctionne la démocratie. Si on ouvrait le droit de vote à 16 ans, on pourrait former les jeunes.
Alors, élection local, élection nationale, engagement dès l'adolescence, réponse à l'abstention chez les plus jeunes électeurs. Iban Raïs et Camille Schmitt ont sondé des Français, des Parisiens aujourd'hui. Peut-on voter dès l'âge de 16 ans ?
Je trouve qu'à 16 ans, les jeunes sont déjà très mûrs, enfin certains d'entre eux du moins.
Je pense qu'il faut un peu plus de maturité et à 18 ans, je resterai plutôt pour 18 ans.
A priori, je serais d'accord puisque je pense que les jeunes sont plus mûrs qu'à mon époque.
À 16 ans, on est encore... on fait des études, on est au lycée, hein, donc plein d'idées généreuses et un peu utopistes, c'est normal. Mais je ne pense pas qu'on soit capable d'analyse approfondie.
C'est une façon de les impliquer aussi. Il faut les impliquer.
Moi, j'ai un petit-fils qui a 16 ans, je le vois très bien voter, par exemple. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais il a des idées.
On a baissé de 21 à 18, pourquoi pas baisser de 2 points, hein ?
2 points, référence évidemment au septennat Giscard, justement le passage de 21 à 18 ans. Alors si les jeunes d'aujourd'hui sont plus mûrs, il y a un contraste, vous allez me dire, vous allez regarder 1974, la majorité à 18 ans et donc la citoyenneté. Écoutez ce qu'on disait à l'époque.
Moi, je pense que le vote devrait être fixé à 18 ans. Si la personne de 18 ans travaille, c'est-à-dire c'est la jeune responsabilité dans la vie.
18 ans, c'est peut-être trop jeune. Il faudrait fixer peut-être un moyen terme à 19 ou 20 ans.
Très important, et je pense que c'est une chose qui aurait sans doute pu modifier le résultat des dernières élections d'ailleurs.
Ça dépend des caractères des jeunes, s'ils ont une mentalité évoluée ou non.
Dès l'instant qu'un jeune travaille et qu'on lui prend ses impôts, je trouve que c'est logique qu'il ait le droit de vote.
Moi, je pense que les jeunes ont maintenant beaucoup plus le sens des responsabilités. Mais ils ne sont tout de même pas assez mûrs pour certaines décisions.
Alors soyons clairs, hein, il ne s'agit pas de changer la loi d'ici à la présidentielle. Toutefois, une mission parlementaire travaille à l'élargissement du droit de vote aux plus jeunes.
L'UFC Que Choisir s'attaque au géant McDonald's.
Oui, l'association de consommateurs porte plainte même et accuse la chaîne de fast-food de faire appel à de jeunes influenceurs en ligne pour promouvoir les produits McDo. Petite sélection de ces jeunes youtubeurs.
Alors aujourd'hui, j'ai ouvert mon propre McDonald's et bientôt, papa et Athéna vont venir commander au McDonald's.
C'est quoi tout ça ?
McDo.
McDo. McDo, je crois que vous avez de nouveau reçu un colis.
Ici, nous avons les boîtes pour la nourriture. Regardez, ici les frites.
Je vous le rappelle, il s'agit d'une collection exclusive de chez McDonald's.
Tous les ingrédients, tout l'appli mieux, tout. Et est-ce que vous aimez ma déco ?
Alors, Swan et Neo, parmi ceux que vous venez de voir, par exemple, c'est un compte YouTube suivi par près de 6 millions de personnes. Ouais. C'est une plainte pour pratique commerciale trompeuse que dépose l'UFC Que Choisir.
Ce qui bloque justement dans ce type de vidéo, c'est que pour nous, c'est un partenariat qui ne dit pas son nom. Et c'est ça qui est problématique, parce que c'est déloyal. On ne dit pas que c'est une communication commerciale. Il y a quelques mois, la DGCCRF a prononcé une sanction à l'égard d'une influenceuse parce qu'elle avait fait un placement de produit sans dire que c'était un placement de produit. En l'occurrence, elle s'adressait à des adultes.
Alors vous venez de l'entendre, l'idée de cette plainte c'est de protéger des spectateurs de ces chaînes qui sont jeunes, très jeunes parfois, et donc moins armés pour faire face à la pub cachée. Cette juriste de l'UFC Que Choisir que l'on vient d'entendre faisait référence à une amende infligée à Nabila, idem pour de la pub cachée en ligne, l'influenceuse avait été écopée d'une amende de 20 000 euros.
Dominique Schelcher, vous ne voudriez pas utiliser des influenceurs, des youtubeurs pour faire de la publicité cachée de Système U?
On a été parmi les premiers à intervenir sur TikTok. Mais vous êtes obligé de le faire avec des influenceurs. Par contre, on le fait avec des influenceurs adultes qui ont pignon sur rue, évidemment.
Et qui annoncent la couleur, quoi.
Qui annoncent la couleur. Il y a rien.
Et vous les payez cher ?
C'est des gens qui gagnent très bien leur vie, absolument. C'est vraiment un nouveau marché. Et en contrepartie, il y a un retour sur investissement. C'est-à-dire que ces gens sont, je trouve, très bien payés, mais en même temps, il y a un impact réel sur...
Plus que la publicité à la télévision ?
pour certaines cibles, c'est différent. Là, on visait plus de jeunes différemment, etc. Il y a eu un réel impact. On a été très satisfaits.
On termine ce 5 sur 5 avec la reine d'Angleterre.
Oui, et une photo que l'on retrouve à la une des journaux britanniques, la reine en public avec une canne pour marcher. Alors normalement, vous me direz qu'à 95 ans, on se dit que ce n'est pas surréaliste, mais il faut dire que c'est une première, à l'exception d'une fois en 2004, mais c'était après une opération du genou. Buckingham n'a pas souhaité commenter ces images. Il faut dire que la semaine dernière, elle n'avait pas de canne. En 2020 seulement, la reine d'Angleterre a été vue en train de monter à cheval. Mais si ça devait se reproduire, vous savez ce qu'on va faire? On va aider ce soir les tenues, les sacs, les chapeaux. On sait que tout est méticuleusement choisi. Voici notre sélection de cannes. Cette canne Fabergé qui approchera des 50 000 euros, par exemple. Ça, c'est pour le luxe, c'est pour le faste de la couronne. Il y a aussi l'évidente, la canne épée que vous voyez. J'attends de vieillir.
Oui, j'imagine bien Elisabeth II avec ça.
Pas moi, j'attends de vieillir juste pour pouvoir me l'offrir. Et puis, on peut aller encore plus loin avec cette canne pistolet que vous voyez, Babette. Bon, après, c'est pas forcément du meilleur goût non plus. L'équipe du 5 sur 5, nous avons un petit faible pour la canne sarbacane. C'est plus subtil que le pistolet, plus amusant aussi. Je termine avec ma préférée, sans doute la plus utile, la canne tire-bouchon. Voilà notre festival de Cannes, Pierre.
Oh, c'était un joli festival de Cannes. Bah oui, ça lui a coûté cher, hein, cette blague-là. Il l'a acheté sur humour.com, une fortune. Merci beaucoup, Mathieu Béliard. Merci, Dominique Schelser. Merci, Denis Mukwege, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous, La force des femmes. Ce récit essentiel paraît demain aux éditions Gallimard. C'est l'histoire d'un jeune chanteur qui, au moment de se choisir un nom de scène, a tout simplement ouvert le dictionnaire.
Pourquoi Lama ?
Oh, c'est par hasard. Il m'est venu cette idée de Lama. Non, il ne m'est pas venu cette idée de Lama. J'ai ouvert le dictionnaire et je me suis laissé aller au hasard, comme je fais souvent dans ma vie d'ailleurs. Et je suis tombé sur Lama. Alors j'ai écrit Lama. Comme j'aimais fait bien faire de la peinture, je me le suis peint dans plusieurs grandeurs, comme ça, pour voir comment ça collait bien sur une affiche, en mettant des noms bidons autour. Tout ça, Beko. J'ai vu que ça collait bien, j'ai mis des néons, j'ai mis tout ça. Et j'ai dit, bon, ça va.
Bonsoir Serge Lama.
Bonsoir à tous.
On est très heureux de vous recevoir à l'occasion d'un très beau livre, L'histoire de votre vie, celle de vos chansons illustrées par vos peintres préférés. C'est un dialogue aussi original que réussi entre la musique et la peinture. Vous qui, à 14 ans, étiez élève dans une école de dessin publicitaire et qui testait, on vient de l'entendre, en peinture des affiches avec écrit Lama en énorme et Beko en tout petit. Hein. Il fallait pas... Et voilà, vous vouliez voir ce que ça donnait.
Vous savez... Ce reportage-là, j'étais très ambitieux et je n'ai pas de honte à l'avoir été.
Et à c'était, bout portant, c'est en 1971.
À bout portant, oui. C'est une émission formidable, d'ailleurs, qui était formidable. Et j'étais sans filtre, comme on dit aujourd'hui, à l'époque.
C'est pas qu'aujourd'hui, vous diriez le contraire. La main en tout petit, Beko en énorme.
Voilà, je dirais, en tout cas, je fermerais ma gueule sur certains trucs.
Et vous continuez à dessiner?
Non, je continue pas à dessiner parce que j'écris beaucoup, je lis beaucoup, j'aime l'art, j'ai été heureux parce que Claude Pomereau qui me propose ça, je suis tombé des nues parce qu'au départ c'était un programme qui je devais avoir un programme de luxe et donc c'était les éditions Beaux-Arts qui faisaient ça et là tout d'un coup il me sort, il me dit on va sortir un livre de 250 pages.
Et qui sont formidables, parce que vous y faites aussi le récit de votre vie, Serge Lama. On en parle longuement, comme j'ai deux exemplaires, je peux en offrir un à Denis Mukwege. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce soir. Dominique Schelcher, vous ferez offrir ça par vos influenceurs qui gagnent très bien leur vie. Voilà, c'est aux éditions Beaux-Arts, ça vaut 24,50 €. À tout de suite, avec Serge Lama.